Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Επίπεδο Γ1 και Γ2. Έναρξη της εξέτασης.
Activité 1. Lisez la consigne. Lisez les hypothèses. Écoutez.
Wolfgang Gruber et son frère Thomas sont depuis 6 heures dans l'étable. 22 vaches doivent être nourries et traites. Les hôtes auront du lait frais au petit déjeuner. 2h30 plus tard, tout est terminé. Il est alors temps de passer à leur seconde activité, moniteur de ski. Walter Seifert s'apprête lui aussi à intervenir. Il vient au secours des accidentés du ski. Le pilote effectue 10 à 12 vols d'intervention par jour. Walter Seifert est toujours accompagné par un infirmier et un médecin. Tous trois forment une équipe homogène. L'été, le pilote largue des tonnes de matériaux sur les chantiers à l'aide d'un treuil. Un exercice suffisant pour sauver des accidentés dans les endroits les plus difficiles. Entre-temps, Wolfgang Gruber a pris sa douche, histoire d'éliminer toutes les odeurs de l'étable. Il donne des cours de ski presque tous les jours sur 110 km de piste. Le domaine skiable de Lech compte également 110 km de descente hors piste. Que dit la météo? Assez de neige pour emprunter chaque jour une nouvelle piste pendant 3 semaines. Michael Mannhardt est l'inventeur d'un canon à neige qu'il a baptisé lui-même Arlberg Jets, neige à volonté. Il veille à ce que tout reste blanc, même en dessous de 1500 mètres. Toutes les qualités sont possibles. Nous produisons par exemple de la neige de compétition baptisée neige sestrière, à la poudre qui accroche.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
Wolfgang Gruber et son frère Thomas sont depuis 6 heures dans l'étable. 22 vaches doivent être nourries et traites. Les hôtes auront du lait frais au petit déjeuner. 2h30 plus tard, tout est terminé. Il est alors temps de passer à leur seconde activité, moniteur de ski. Walter Seifert s'apprête lui aussi à intervenir. Il vient au secours des accidentés du ski. Le pilote effectue 10 à 12 vols d'intervention par jour. Walter Seifert est toujours accompagné par un infirmier et un médecin. Tous trois forment une équipe homogène. L'été, le pilote largue des tonnes de matériaux sur les chantiers à l'aide d'un treuil. Un exercice suffisant pour sauver des accidentés dans les endroits les plus difficiles. Entre-temps, Wolfgang Gruber a pris sa douche, histoire d'éliminer toutes les odeurs de l'étable. Il donne des cours de ski presque tous les jours sur 110 km de piste. Le domaine skiable de Lech compte également 110 km de descente hors piste. Que dit la météo? Assez de neige pour emprunter chaque jour une nouvelle piste pendant 3 semaines. Michael Mannhardt est l'inventeur d'un canon à neige qu'il a baptisé lui-même Arlberg Jets, neige à volonté. Il veille à ce que tout reste blanc, même en dessous de 1500 mètres. Toutes les qualités sont possibles. Nous produisons par exemple de la neige de compétition baptisée neige sestrière, à la poudre qui accroche.
Activité 2. Lisez la consigne.
Item 6A.
Écoutez.
La solidarité internationale, c'est pas pour moi. Savoir plein de trucs, avoir fait des tas d'études, c'est trop compliqué.
Item 7A.
Écoutez.
La solidarité internationale, c'est pour les baroudeurs. Parcourir le monde, bouger partout, tout le temps. Et notre vie de famille dans tout ça, alors.
Item 8A.
Écoutez.
Moi, j'ai d'autres priorités. Et puis, de toute façon, j'ai pas d'argent, en tout cas pas pour ça. Si t'es pas ingénieur ni médecin, qu'est-ce que tu peux faire ? Rien ?
Item 9A.
Écoutez.
Ça demande beaucoup trop de temps. Moi, je suis surbookée. Entre le boulot, le quotidien, les amis. J'ai bien d'autres choses à faire.
Item 10A.
Écoutez.
Si ça servait à quelque chose, ça serait, hein. À force d'aider les pauvres, on en fait des assistés. Alors, avec la crise, franchement...
Écoutez encore une fois les items et complétez vos réponses.
Item 6A.
Écoutez.
La solidarité internationale, c'est pas pour moi. Savoir plein de trucs, avoir fait des tas d'études, c'est trop compliqué.
Item 7A.
Écoutez.
La solidarité internationale, c'est pour les baroudeurs. Parcourir le monde, bouger partout, tout le temps. Et notre vie de famille dans tout ça alors.
Item 8A.
Écoutez.
Moi, j'ai d'autres priorités. Et puis, de toute façon, j'ai pas d'argent, en tout cas pas pour ça. Si t'es pas ingénieur ni médecin, qu'est-ce que tu peux faire ? Rien ?
Item 9A.
Écoutez.
Ça demande beaucoup trop de temps. Moi, je suis surbookée. Entre le boulot, le quotidien, les amis, j'ai bien d'autres choses à faire.
Item 10A.
Écoutez.
Si ça servait à quelque chose, ça serait, hein. À force d'aider les pauvres, on en fait des assistés. Alors avec la crise, franchement...
Activité 3. Lisez la consigne. Lisez les hypothèses. Écoutez.
Bonjour Jacques de Police, bonjour. Vous êtes cet après-midi en dédicace pour votre nouvel ouvrage Novarić, les nouveaux princes de la côte. Alors dites-nous, qui sont ces Novarić ?
Bien, les Novarić sont, c'est un terme un petit peu contracté de nouveaux riches en russe, puisque le terme n'existe pas. Disons que nous avons fait une contraction de Tovarić, Novarić, Nouveau-Rić pour en faire un titre. Ça désigne les milliardaires de l'oligarchie russe, d'Eltsine à Poutine, qui ont pris le pouvoir en Russie et qui se sont installés sur la Côte d'Azur, sur les traces des anciens Russes qui étaient des habitués de la Côte d'Azur de la fin du 19e siècle.
Alors pourquoi justement cette attraction par la Côte d'Azur ?
Eh bien parce que, bon, on va dire bêtement, parce que la Russie et tout le bloc soviétique, ce sont des pays qui sont assez froids. Ces gens-là avaient l'habitude de chercher des climats beaucoup plus tempérés, et notamment donc ils allaient vers la mer Noire, les bords de la Crimée, etc. Et puis quand il y a eu les conflits avec les Turcs, ils ont bien dû trouver d'autres destinations. Et la destination privilégiée était la Côte d'Azur, qui se développait vers le milieu du 19e siècle. Donc ils se sont retrouvés dans la suite des lords anglais et ils ont installé eux-mêmes une colonie, dans la colonie des aristocrates, dans la mouvance de la famille des Romanov.
Alors vous parlez d'une colonie. Qu'y a-t-il de dérangeant dans leur comportement sur la Côte d'Azur ?
Alors effectivement, donc, on a beaucoup parlé du comportement de ces nouveaux riches qui étalent leur puissance d'argent en achetant sans compter, en ayant un train de vie très dispendieux. Ce qui a eu de dérangeant par rapport aux Russes installés, de la diaspora russe qui sont installés là-bas depuis la révolution russe de 1917, donc c'est-à-dire les petits-enfants de ces Russes réfugiés, il y a un énorme décalage de la façon de vivre. Ce sont des gens pieux, ce sont des gens modestes, et donc de voir arriver ces nouveaux riches qui étalent des milliards de dollars de façon éhontée, donc il y a eu un conflit entre ces deux générations.
Alors vous écrivez ce livre avec un véritable style très littéraire. Est-ce que c'est une avancée vers l'écriture d'un roman ou pas du tout ?
Eh bien bon, c'est vrai que 25 ans de journalisme m'ont complètement fossoyé dans l'écriture journalistique et que là j'ai essayé de donner un petit côté histoire vraie, un petit peu romancée, pour dérider un petit peu l'atmosphère de l'enquête journalistique pure et simple, avec des faits qui sont parfois rébarbatif, ce qu'on m'a reproché encore. Bon, j'espère que ça va évoluer encore dans l'avenir, mais c'est vrai que quand on est journaliste trop longtemps, on a trop tendance à vouloir trop prouver et puis pas aller assez dans la vulgarisation d'une affaire que l'on traite, quoi. Voilà.
Alors vous êtes également à Brest aujourd'hui pour le lancement du magazine Le Coq Gourmand. Quelle fut votre participation pour cet exemplaire ?
Bien, donc il y a longtemps que je collabore à la revue Le Coq Gourmand. Comme je suis un passionné d'histoire, et il y a longtemps que j'ai été intrigué par les anecdotes concernant la gastronomie. Et donc j'ai cherché à faire une chronique qui soit particulièrement orientée vers l'origine des plats, l'origine des qui ont des noms tout à fait bizarres. Alors, le Paris-Brest en faisait partie. Pourquoi le Paris-Brest ? Et donc, j'ai cherché à savoir comment c'était. Et je suis remonté aux sources véritables de l'histoire du Paris-Brest, qui a 4-5 versions différentes. Celle que je préfère est celle qui prend son origine à Brest.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
Jean-Jacques de Police, bonjour. Vous êtes cet après-midi en dédicace pour votre nouvel ouvrage Novarich, les nouveaux princes de la côte. Alors dites-nous, qui sont ces Novarich ?
Bien, les Novarich sont, c'est un terme un petit peu contracté de nouveaux riches en russe, puisque le terme n'existe pas. Disons que nous avons fait une contraction de Tovarich, Novarich, Nouveaux-Riches pour en faire un titre. Ça désigne les milliardaires de l'oligarchie russe, d'Eltsine à Poutine, qui ont pris le pouvoir en Russie et qui se sont installés sur la Côte d'Azur, sur les traces des anciens Russes qui étaient des habitués de la Côte d'Azur de la fin du 19e siècle.
Alors pourquoi justement cette attraction par la Côte d'Azur ?
Eh bien parce que, bon, on va dire bêtement, parce que la Russie et tout le bloc soviétique, ce sont des pays qui sont assez froids. Ces gens-là avaient l'habitude de chercher des climats beaucoup plus tempérés, et notamment donc ils allaient vers la mer Noire, les bords de la Crimée, etc. Et puis quand il y a eu les conflits avec les Turcs, ils ont bien dû trouver d'autres destinations. Et la destination privilégiée était la Côte d'Azur, qui se développait vers le milieu du 19e siècle. Donc ils se sont retrouvés dans la suite des lords anglais et ils ont installé eux-mêmes une colonie, dans la colonie des aristocrates, dans la mouvance de la famille des Romanov.
Alors vous parlez d'une colonie. Qu'y a-t-il de dérangeant dans leur comportement sur la Côte d'Azur ?
Alors effectivement, donc, on a beaucoup parlé du comportement de ces nouveaux riches qui étalent leur puissance d'argent en achetant sans compter, en ayant un train de vie très dispendieux. Ce qui a eu de dérangeant par rapport aux Russes installés de la diaspora russe qui sont installés là-bas depuis la révolution russe de 1917, donc c'est-à-dire les petits-enfants de ces Russes réfugiés, il y a un énorme décalage de la façon de vivre. Ce sont des gens pieux, ce sont des gens modestes, et donc de voir arriver ces nouveaux riches qui étalent des milliards de dollars de façon éhontée, donc il y a eu un conflit entre ces deux générations.
Alors vous écrivez ce livre avec un véritable style très littéraire. Est-ce que c'est une avancée vers l'écriture d'un roman ou pas du tout ?
Eh bien bon, c'est vrai que 25 ans de journalisme m'ont complètement fossoyé dans l'écriture journalistique et que là j'ai essayé de donner un petit côté histoire vraie, un petit peu romancée, pour dérider un petit peu l'atmosphère de l'enquête journalistique pure et simple, avec des faits qui sont parfois rébarbatif, ce qu'on m'a reproché encore. Bon, j'espère que ça va évoluer encore dans l'avenir, mais c'est vrai que quand on est journaliste trop longtemps, on a trop tendance à vouloir trop prouver et puis pas aller assez dans la vulgarisation d'une affaire que l'on traite, quoi, voilà.
Alors vous êtes également à Brest aujourd'hui pour le lancement du magazine Le Coq Gourmand. Quelle fut votre participation pour cet exemplaire ?
Bien, donc il y a longtemps que je collabore à la revue Le Coq Gourmand. Comme je suis un passionné d'histoire, et il y a longtemps que j'ai été intrigué par les anecdotes concernant la gastronomie. Et donc j'ai cherché à faire une chronique qui soit particulièrement orientée vers l'origine des plats, l'origine des qui ont des noms tout à fait bizarres. Alors le Paris-Brest en faisait partie. Pourquoi le Paris-Brest ? Et donc j'ai cherché à savoir comment c'était, et je suis remonté aux sources véritables de l'histoire du Paris-Brest, qui a 4-5 versions différentes, celle que je préfère est celle qui prend son origine à Brest.
Activité 4. Lisez la consigne. Lisez les hypothèses. Écoutez.
Jean-Dominique Merchet, votre livre parle des forces spéciales. Qu'est-ce que c'est au juste, les forces spéciales ?
La première phrase de mon livre, c'est « Nul ne sait ce que sont les forces spéciales ». Alors, c'est un peu une boutade quand on en écrit l'histoire, mais c'est vrai que la définition n'est pas très précise et personne n'est vraiment d'accord sur ce que sont.
Alors, votre livre raconte non pas l'histoire, mais une histoire des forces spéciales. Alors, pourquoi cette nuance ?
Une histoire parce que, d'abord, c'est mon point de vue sur cette histoire, et je ne suis pas historien, donc je n'ai pas je suis journaliste et j'ai pas du tout l'ambition de faire un travail académique qui serait l'histoire académique formulée avec les règles de l'art. Non, c'est mon regard sur cette histoire, donc une histoire avec un point de vue parfois un peu critique et aussi parfois un peu amusé. Il y a des choses que j'ai voulu faire un livre avec des récits qui se lisent, ma foi, de manière agréable et non pas un livre très savant. Voilà.
Alors vous dites qu'au fond, les forces spéciales, elles existent depuis le début des temps.
Oui, finalement, la manière de combattre des forces spéciales, si on veut avoir une image, c'est celle de la guerre du feu. C'est-à-dire l'homme préhistorique qui va faire un raid chez ses ennemis, qui rentre dans un territoire adverse, qui accomplit sa mission, voler le feu, détruire une base secrète ou je ne sais quoi, et puis qui repart aussi vite sans rester, sans se faire prendre. C'est une manière de faire la guerre, c'est la manière la plus ancienne de faire la guerre. Et puis, les forces spéciales, c'est cette petite minorité de militaires qui pensent qu'on peut faire la guerre sans faire la bataille. C'est, disons, pour faire vite, des troupes d'élite qui font la guerre d'une manière non conventionnelle.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
Jean-Dominique Merchet, votre livre parle des forces spéciales. Qu'est-ce que c'est au juste, les forces spéciales ?
La première phrase de mon livre, c'est « Nul ne sait ce que sont les forces spéciales ». Alors, c'est un peu une boutade quand on en écrit l'histoire, mais c'est vrai que la définition n'est pas très précise et personne n'est vraiment d'accord sur ce que sont.
Alors, votre livre raconte non pas l'histoire, mais une histoire des forces spéciales. Alors, pourquoi cette nuance ?
Une histoire parce que, d'abord, c'est mon point de vue sur cette histoire et je ne suis pas historien, donc je n'ai pas je suis journaliste et j'ai pas du tout l'ambition de faire un travail académique qui serait l'histoire académique formulée avec les règles de l'art. Non, c'est mon regard sur cette histoire, donc une histoire avec un point de vue parfois un peu critique et aussi parfois un peu amusé. Il y a des choses que j'ai voulu faire un livre avec des récits qui se lisent, ma foi, de manière agréable et non pas un livre très savant. Voilà.
Alors vous dites qu'au fond, les forces spéciales, elles existent depuis le début des temps.
Oui, finalement, la manière de combattre des forces spéciales, si on veut avoir une image, c'est celle de la guerre du feu. C'est-à-dire l'homme préhistorique qui va faire un raid chez ses ennemis, qui rentre dans un territoire adverse, qui accomplit sa mission, voler le feu, détruire une base secrète ou je ne sais quoi, et puis qui repart aussi vite sans rester, sans se faire prendre. C'est une manière de faire la guerre, c'est la manière la plus ancienne de faire la guerre. Et puis, les forces spéciales, c'est cette petite minorité de militaires qui pensent qu'on peut faire la guerre sans faire la bataille. C'est, disons, pour faire vite, des troupes d'élite qui font la guerre d'une manière non conventionnelle.
Activité 5. Lisez la consigne. Écoutez.
Un acouphène est une sensation de sifflement ou de bourdonnement à l'intérieur des oreilles. Moins gênant dans la journée, il est en revanche beaucoup plus perceptible le soir. Ce bruit peut être transitoire, mais peut aussi s'installer sur le long terme et devenir, chez certaines personnes, une véritable obsession. Il s'agit d'un phénomène banal. Les acouphènes affectent en effet 15% de la population générale. Et dans l'immense majorité des cas, ces acouphènes sont sans aucune gravité. Il existe deux sortes d'acouphènes, les acouphènes objectifs, qui sont les plus rares, et liés à une anomalie de l'appareil auditif. Le bruit est mesurable et une intervention chirurgicale est parfois envisageable. Et puis, les acouphènes subjectifs, majoritaires, ceux-là sont des bruits que seuls les patients perçoivent. Ils sont liés au vieillissement, à une perte d'audition ou à une répétition d'exposition sonore. Malheureusement, aujourd'hui, aucun traitement qui puisse combattre la cause de ces acouphènes n'existe. Le mieux serait d'abord de consulter un médecin pour écarter toute forme sévère, puis d'accepter ce nouveau compagnon dans sa vie. C'est en le tolérant que le cerveau pourra très vite le négliger et que l'acouphène finira par ne plus être perçu.
Sinon, il est préférable d'éviter le silence complet. Par exemple, allumer une radio à faible volume, écouter de la musique douce au moment du coucher vous permettra de mieux appréhender votre nuit.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
Un acouphène est une sensation de sifflement ou de bourdonnement à l'intérieur des oreilles. Moins gênant dans la journée, il est en revanche beaucoup plus perceptible le soir. Ce bruit peut être transitoire, mais peut aussi s'installer sur le long terme et devenir, chez certaines personnes, une véritable obsession. Il s'agit d'un phénomène banal. Les acouphènes affectent en effet 15% de la population générale. Et dans l'immense majorité des cas, ces acouphènes sont sans aucune gravité. Il existe deux sortes d'acouphènes, les acouphènes objectifs, qui sont les plus rares, est liée à une anomalie de l'appareil auditif. Le bruit est mesurable et une intervention chirurgicale est parfois envisageable. Et puis, les acouphènes subjectifs, majoritaires, ceux-là sont des bruits que seuls les patients perçoivent. Ils sont liés au vieillissement, à une perte d'audition ou à une répétition d'exposition sonore. Malheureusement, aujourd'hui, aucun traitement qui puisse combattre la cause de ces acouphènes n'existe. Le mieux serait d'abord de consulter un médecin pour écarter toute forme sévère, puis d'accepter ce nouveau compagnon dans sa vie. C'est en le tolérant que le cerveau pourra très vite le négliger et que l'acouphène finira par ne plus être perçu.
Sinon, il est préférable d'éviter le silence complet. Par exemple, allumer une radio à faible volume, écouter de la musique douce au moment du coucher vous permettra de mieux appréhender votre nuit.
Activité 6. Lisez la consigne. Écoutez.
Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice.
Quand le plan alerte enlèvement est déclenché, ce type de message est diffusé entre chaque programme pendant 3 heures. Et tous les quarts d'heure, un bandeau défile aussi sur toutes les chaînes de télévision. Mêmes indications dans les gares, les métros et sur les routes. Ce dispositif est inspiré du plan Amber, créé il y a 10 ans au Texas. Il est lancé très vite quand un enfant disparaît, car les premières 24 heures sont cruciales. Le texte a été adopté en France il y a 1 an à peine. La première alerte a lieu en juillet dernier. Deux sœurs sont introuvables dans le Maine-et-Loire. Le plan est déclenché, mais c'est une fausse alerte. Elles rentrent chez elles quelques heures après leur disparition. Les autorités sont prudentes car très souvent il s'agit de fugues et pas d'enlèvement criminel. Une théorie qui ne se vérifie pas toujours. Récemment, l'alerte a été lancée deux fois avec succès. En moins de 24 heures, les enfants disparus ont été retrouvés, entre autres grâce aux messages multidiffusés. Aux États-Unis, en tout cas, le système a fait ses preuves, il a permis de retrouver 140 mineurs en 10 ans.
Écoutez encore une fois et complétez vos réponses.
Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice.
Quand le plan alerte enlèvement est déclenché, ce type de message est diffusé entre chaque programme pendant 3 heures. Et tous les quarts d'heure, un bandeau défile aussi sur toutes les chaînes de télévision. Mêmes indications dans les gares, les métros et sur les routes. Ce dispositif est inspiré du plan Amber, créé il y a 10 ans au Texas. Il est lancé très vite quand un enfant disparaît, car les premières 24 heures sont cruciales. Le texte a été adopté en France il y a 1 an à peine. La première alerte a lieu en juillet dernier. Deux sœurs sont introuvables dans le Maine-et-Loire. Le plan est déclenché, mais c'est une fausse alerte. Elles rentrent chez elles quelques heures après leur disparition. Les autorités sont prudentes car très souvent il s'agit de fugues et pas d'enlèvement criminel. Une théorie qui ne se vérifie pas toujours. Récemment, l'alerte a été lancée deux fois avec succès. En moins de 24 heures, les enfants disparus ont été retrouvés, entre autres grâce aux messages multidiffusés. Aux États-Unis, en tout cas, le système a fait ses preuves. Il a permis de retrouver 140 mineurs en 10 ans.
Τέλος της εξέτασης. Καλή επιτυχία!